hors champ. Orchamps, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Pierre Birnbaum. Pierre Birnbaum, vous êtes historien, sociologue, enseignant, auteur de très nombreux livres. Le premier s'intitulait « Sociologie de Tocqueville ». Il y a eu ensuite « Les fous de la République », un remarquable livre sur l'affaire Dreyfus, une biographie de Léon Blum, « Le moment antisémite », un récit de meurtre rituel au grand siècle, l'affaire Raphaël Lévy, « La République et le cochon ». Le dernier, un des derniers s'intitule « Sur un nouveau moment antisémite, jour de colère ». De tout cela, nous allons parler tout au long de cette émission. Mais je voulais savoir si votre date de naissance, juillet 40, c'est-à-dire quelques jours après le statut de Vichy, a influencé votre, ce qui deviendra votre vocation.
Ben, vous posez une question sérieuse immédiatement. C'est difficile de vous répondre. Il est évident qu'on ne naît pas impunément dans ce contexte-là. La question, c'est comment on se construit ensuite, une fois qu'on a pu survivre, à travers des années, vous imaginez, difficiles, d'être d'enfants cachés, comme l'ont été beaucoup.
Où ?
À Lourdes. Et dans les... enfin, pas à Lourdes, au début, je suis né à Lourdes, donc un enfant du miracle. Et j'ai été ensuite enfant caché dans les Hautes-Pyrénées, un tout petit village de la montagne, chez des paysans.
Qui ne savaient pas que vous étiez juif.
Si, bien sûr, si. Si, mais tout le village le savait, et donc ça soulève des problèmes aussi de voisinage et de dénonciation, ou d'absence de dénonciation. Donc c'est tout ce milieu, tout ce moment qui survit dans les mémoires d'aujourd'hui, puisque j'y étais il y a encore 15 jours avec ma fille, je suis resté très fidèle à ce lieu, un tout petit village perdu dans la haute montagne, et où tout le monde se sait exactement ce qu'a fait l'un ou ce qu'a fait l'autre durant cette période de violence extrême et de dénonciation et de mort et de tragédie.
Quels souvenirs gardez-vous de cette période-là ?
Des souvenirs très... Certains sont très précis, sont des souvenirs de très jeune enfance, bien sûr, de prime enfance, mais enfin... tout à fait vers la fin de la guerre, mes parents nous avaient repris, puisqu'eux-mêmes avaient du mal à trouver une cache. Et j'ai le souvenir de la montée des camions d'Allemands qui entourent la ferme et qui brutalisent tout le monde, qui prennent mon père, qui le prennent pour un maquisard. Enfin, mon père arrive à se débattre. Voilà. Donc il y a des souvenirs de ce type, d'avions abattus, enfin voilà, je me souviens de... Et puis les paysans me racontaient que les premiers mots étaient toujours « il ne faut pas aller doucement, il y a des Allemands partout ». C'est-à-dire que la sociabilité, la socialisation s'est faite dans ce contexte de contraintes, ce qui ne veut pas dire que ça marque à vie les gens, et chacun ensuite en fait ce qu'il peut. Et évidemment, je n'ai pas connu, heureusement pour moi, ni mes parents et parents, la vraie tragédie que d'autres ont subie, la vraie déportation et tout. C'est certain que ça marque une vie... ça incite à une peu de distance ou certainement ça mène à un mode de vie avec une distanciation à l'égard des choses ou un regard un peu prudent, critique. Et en tout cas, ça vous conduit certainement à une évaluation des difficultés de la vie qui n'est pas exactement la même que d'autres peuvent ressentir, enfin.
C'est-à-dire que vous avez été désigné comme juif avant même de savoir ce que cela signifiait.
Bah écoutez, je crois que c'est le cas de tout un chacun. Lorsqu'il est désigné comme autre, c'est ce qui lui arrive ou lui arrive à il ou à elle, bien sûr.
Mais il peut vivre dans une culture, il peut vivre dans un environnement oui. où sa propre identité, si tant est que vous acceptiez ce mot d'identité, corresponde à quelque chose qui a, qui a un sens pour lui. Vous, ça n'a pas été votre cas.
Ça n'est pas le cas dans les premières années, puisque là, je suis avec des paysans catholiques ou communistes. Mais ensuite, mes parents nous ont repris et ça a été le retour dans une forme de sociabilité où cette question, cet aspect de la vie est tout à fait important. Et donc, il n'y a pas de telle rupture dans ma personnalité, enfin dans mon mode de vie. Mais surtout, je pense que ça introduit à éventuellement une carrière de sociologue, c'est-à-dire voir le monde avec d'autres lunettes, avec un peu de distance, vous voyez, avec un peu de distance au réel. Si on a la chance d'être rattrapé par l'ascenseur social, de se rattraper aux branches de la mobilité et de l'école méritocratique et de l'école républicaine, comme ça a été mon cas, bah, tout à fait, oui. Dans le livre d'entretien que j'ai publié chez Albin Michel, avec Jean Baumgarten et Yves Deslois, je raconte à quel point le moment essentiel de ma vie personnelle, c'est la rencontre avec les instituteurs, donc ceux de Mona Ozouf, ceux que vous connaissez bien, les hussards noirs de la République. J'ai eu la chance d'avoir un hussard noir de la République extrêmement violent, comme il l'était au XIXe siècle, qui cognait, qui était très violent, très dur, et qui en même temps m'a fait confiance, me donnait des cours particuliers chez lui gratuitement, et m'a fait rentrer, enfin a fait en sorte que je puisse rentrer. C'est l'examen le plus dur que j'ai passé de ma vie, l'examen d'entrée en sixième. C'était un examen très très difficile à l'époque. Et sur toute une classe d'âge, je suis le seul à être entré en sixième. C'est-à-dire que personne n'entrait en sixième comme aujourd'hui, on va jusqu'au bac. À l'époque, 90% des enfants s'arrêtaient au certificat d'études, enfin à 13-14 ans. Donc c'est grâce à l'école méritocratique, à l'école républicaine, qu'ensuite les choses ont pu se construire avec beaucoup de chance, avec énormément de chance, mais avec en même temps beaucoup de travail.
Et le principe de la laïcité a été imprimé dans votre ADN, si j'ose dire, dès l'âge de la fin de l'enfance, par votre instituteur.
C'est tout à fait le cas. Et une école républicaine, une morale républicaine, une exigence républicaine, avec, je dirais, en plus, tout de même... d'absence de mémoire. Parce que dans ce livre d'entretien, je raconte que bien plus tard, lors d'un dialogue impromptu avec un ami historien, Pierre Milza, Milza me racontait qu'il avait été dans la même école que moi, mais 4 ans avant moi. Et il m'a dit qu'il a vu partir les petits-enfants juifs de l'école. Or, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans cette école publique du 3e arrondissement et je n'en savais rien. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'histoire n'est pas encore devenue mémoire, où la mémoire est défaillante. Et un petit enfant donc qui fait ses études entre 1945 et 1951 ignore totalement que 4 ans avant lui, les petits-enfants juifs étaient déportés. C'est-à-dire que c'est à la fois la méritocratie et puis une école républicaine, comme une France de l'époque, vous le savez bien, qui... fait un peu silence sur ce qui s'est passé. C'est un peu l'ambition de De Gaulle, que la France reconstruise de manière unanime, consensuelle, et que cet épisode, ce moment de la vie de la France soit un peu exclu de son histoire, que ça n'était pas la France, disait De Gaulle. Et donc c'est une question intéressante. Alors je reviens à ce que vous avez dit. Oui, c'est la laïcité, une laïcité absolue. Un des fils directeurs de mon travail, au fond, c'est le rapport entre Église et État, et la manière dont l'État républicain en France s'est différencié de sa culture, du catholicisme, de l'Église. C'est la seule société au monde qui a poussé aussi loin la distance entre le code culturel et la gestion du politique, la gestion de la citoyenneté. Il n'y a pratiquement aucune société au monde qui ait connu ce choc produit par la Révolution française, un choc inimaginable, dont les conséquences se font encore sentir de nos jours, parce que ce choc a produit un contre-choc, c'est-à-dire une droite extrême dont la violence est à la mesure de l'ambition de la République. C'est-à-dire on a une sorte de logique qui a été au fond on a une sorte de contradiction logique qui a été un peu au cœur de mon travail depuis 20 ou 30 ans, à la fois cette espèce d'ambition de construire un État laïque, institutionnalisé, méritocratique, républicain, avec une citoyenneté forte, un espace public de citoyens et récusant toute forme de communautarisme, comme on dit aujourd'hui. Et en même temps, alors, surgissant comme résultat de ce choc impensable qui ne s'est jamais produit, comment est-ce qu'un État peut se couper de sa culture? C'est inimaginable. Donc une droite, il faut voir la violence de Joseph de Maistre, dont on oublie le nom et l'œuvre. Et Joseph de Maistre appelle se félicite de la Révolution française qui a tué des millions de gens, dit-il, et il appelle au meurtre de millions de Jacobins, de millions, pas de milliers. Il appelle à Providence, justement, à ce qu'il y ait une sorte de régénération, non pas républicaine, comme le souhaitent les Jacobins, mais de régénération catholique, militante. Et cette régénération d'une société catholique très violente et très ardente dans son retour au catholicisme, on la retrouve, vous le savez bien, à travers tout le XIXe siècle, jusqu'à Drummond, jusqu'à Maurras. Et elle est tout
de même... Et c'est un arbre, enfin c'est une... Oui, un arbre très important de ce qui deviendra un antisémitisme quasiment institutionnel.
C'est-à-dire que c'est pas seulement l'antisémitisme, c'est le rejet de l'État. Et le rejet de l'État qui a émancipé les Juifs. Donc c'est, la question de l'antisémitisme est intéressante, mais en réalité, il faut la lier au contexte spécifique de la société française. C'est-à-dire on peut dire qu'il y a différents types de rejet des Juifs, mais on pourrait le dire des Berrichons, ou des Basques, ou des Bretons, ou des protestants.
C'est ce que vous dites dans plusieurs de vos bouquins, c'est que les identités régionales sont beaucoup trop balayées par l'institutionnalisation de l'application de la laïcité par l'État français.
Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a un jugement de valeur. D'abord, je crois qu'on peut distinguer un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a une logique républicaine qui est celle du jacobinisme, et c'est une logique dont on peut très bien comprendre le fonctionnement, et donc... Elle mène à l'éradication de toute forme de résistance à l'universalisme de la raison. Puisque les Jacobins et Robespierre et Saint-Just sont porteurs de la raison, disent-ils, eh bien, tous ceux qui sont attachés aux formes d'archaïsme, de patois, du religieux, sont à être balayés. Donc il y a une logique. Et les Juifs comme les catholiques, les protestants comme les Berrichons, vont passer métaphoriquement à la guillotine. Métaphoriquement. Pour beaucoup d'entre eux. Donc il y a une logique qui est magnifique en même temps, puisqu'elle est fondée sur une idée absolue de la raison, kantienne, enfin une idée magnifique de l'universalisme. Tous les citoyens partagent une seule raison. Et donc évidemment, cette logique, elle a pour contre-coup l'éradication de toute forme d'attachement à des identités, à des rituels. Et entre autres, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, éventuellement... la remise en question, donc, de toute forme de particularisme, y compris celui des Juifs. Et de l'autre côté, cette ambition universaliste a eu, de manière là encore tout à fait irrationnelle, nous sommes dans l'irrationnel cette fois-ci, d'autre côté c'est l'irrationnel, là c'est l'irrationnel, c'est l'idée que ce choc de la rupture avec le catholicisme qui est au fondement de la société française depuis toujours, ou presque, ce choc ne peut s'expliquer que par l'intervention de Satan, et donc des Juifs. Et donc on a déjà, dès les années 1790, 91, 92, 95...
Satan égale les Juifs.
Satan égale les Juifs, le diable. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer qu'un État révolutionnaire, républicain, se coupe du monde culturel catholique qui nourrit la société française, le peuple français? Il faut passer par l'entremise du diable, de Satan. Et donc, qui sont les suppôts de Satan? Les Juifs. Donc, dès les années de la Révolution française ou qui leur succèdent, on voit se mettre en place une contre-révolution qui refuse le rationalisme des Jacobins et qui le refuse d'autant plus qu'il serait l'émanation de l'action des francs-maçons, mais c'est-à-dire des Juifs, c'est-à-dire de ceux qui sont cachés, qui complotent derrière, des illuminés liés aux Juifs qui ont comploté pour détruire le lien irrémédiable et indestructible de la France et du catholicisme. Donc on a là une sorte de spécificité à la fois du modèle de construction de l'État en France, de sa laïcisation, de son ambition universaliste, rationaliste, et en même temps, cette spécificité, on la trouve dans la contre-révolution, la réaction à cette spécificité, c'est-à-dire un refus de cet État qui nourrit une pensée d'extrême droite, dont la violence est probablement assez exceptionnelle aussi, c'est-à-dire la France invente à la fois dans sa logique l'émancipation de l'État, le républicanisme, l'exigence d'un espace public de citoyens tourné vers la raison, et puis elle invente aussi par contre-coup cette espèce de virulence absolue qui va déboucher sur les ligues pendant l'affaire Dreyfus, sur les ligues dans les années 30, sur la violence inimaginable quand même, et celle qui va se déployer par exemple pendant le nazisme. Dans le discours, elle n'est pas bien plus grande. Elle est d'une certaine manière presque l'héritière. J'exagère bien évidemment. Mais il y a comme une sorte de logique, si vous voulez. Le nazisme, c'est la réaction à la République de Weimar. Et la République de Weimar, c'est le contre-coup de la Révolution française. Vous voyez. Donc il y a une sorte de refus du rationalisme à la française, qui est quelque chose de tout à fait spécifique et sur lequel j'ai travaillé depuis 20 ou 30 ans, en montrant à la fois que ce rationalisme permet aux minorités d'entrer dans l'État et de devenir, au fond, des hauts fonctionnaires. J'avais fait un livre sur les fous de la République, justement. Et en même temps, donc, suscite une animosité dont on a du mal à prendre la mesure, tellement elle est immense.
Mais est-ce que cette animosité ne perdure-t-elle pas aujourd'hui ?
Alors, c'est toute
la question. Est-ce qu'il ne faut pas lire justement les phénomènes de société tels qu'ils se manifestent, ce que vous appelez la contre-révolution, comme étant alimentés par cette histoire très profonde ? Peut-être même à l'insu des manifestants eux-mêmes. Hein ?
Ils s'en souviennent bien. En tout cas, ceux qui manifestent, ils s'en souviennent bien. Si vous regardez la presse d'extrême droite aujourd'hui en France, on sous-estime sa présence et on a tendance à ne pas regarder vraiment de ce côté ceux qui écrivent Rivarol, Aspect de la France.
Vous pensez qu'il y a beaucoup de lecteurs ?
Il n'y a jamais eu forcément énormément de lecteurs, mais le message est là et on célèbre Brasillac et on célèbre Joseph de Maistre, dont je viens de parler il y a un instant. On célèbre les anniversaires qui ponctuent cette constitution d'une droite réactionnaire et intransigeante. Évidemment, elle est moins forte de nos jours, mais elle n'en existe pas moins. J'avais fait un petit livre sur un moment antisémite qui est paru il y a un an ou deux, et où je montrais quand même sa présence pendant Jour de colère.
Une présence. Alors, il faut vous expliquer Jour de colère, parce que comme vous l'expliquez admirablement dans ce bouquin, Jour de colère, c'est un moment particulier, une espèce de césure dans l'histoire de la République, on peut dire ça, tellement ce qui s'est passé est très grave. Mais bizarrement, faites-vous remarquer, Pierre Birnbaum, bizarrement, ça a été très peu noté par la presse.
Ben c'est
et très peu commenté.
Il y a pratiquement le silence qui se fait. Or, vous avez quand même des milliers, ça n'est pas une foule gigantesque, ce n'est pas les foules de Weimar, de l'affaire Dreyfus. Vous avez quand même des foules qui crient mort aux Juifs, abat les Juifs, la France aux Français, donc qui reprennent les vocabulaires et les slogans du temps de l'affaire Dreyfus ou des années 30.
C'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était le 26 janvier 2014.
C'est ça. C'est-à-dire que tout se passe un peu en janvier, oui, janvier 14, et puis vous avez janvier 15, avec les événements que vous connaissez, entre Charlie Hebdo, la boucherie cachère. Donc il y a une sorte de succession qui malheureusement devient de plus en plus rapide vers l'extrême et qui se poursuit jusqu'à, vous le savez, les événements récents de novembre. Pour revenir à Jour de colère brièvement, mais tout de même, je voudrais essayer de montrer...
Vous parlez d'un séisme.
C'est un séisme, j'exagère dans la formule, mais c'est tout de même troublant de voir en plein Paris des militants d'extrême droite, porteurs des oriflammes et des drapeaux de l'extrême droite traditionnelle, côte à côte avec malheureusement un certain nombre de jeunes gens et jeunes filles, comme on dit, issus des banlieues, de l'émigration d'Afrique du Nord, donc des fidèles de Dieudonné, faisant la fameuse quenelle, en se moquant des Juifs. Donc on a une sorte d'assemblage très surprenant. Et quand on regarde la presse d'extrême droite, on se félicite de l'antisémitisme de Dieudonné. C'est-à-dire Dieudonné, est considéré comme un héros par la presse d'extrême droite, dans la mesure où l'ennemi commun est le juif. Donc il s'agit d'un rapprochement inédit et troublant, et d'autant plus qu'il se passe dans l'espace public et qu'il se réalise au cours le slogan de l'antisémitisme forcené. Alors c'est le dérapage d'une manifestation qui en elle-même n'est pas antisémite, bien évidemment. Ce sont les droites catholiques qui protestent contre le mariage pour tous depuis 2012, 2013, 2014. Et c'est dans ce cadre-là, mais c'est un dérapage, ce n'est pas la manif pour tous qui est responsable de Jour de colère, mais Jour de colère n'en est quand même, est quand même l'aboutissement de cette mobilisation. Et puis d'ailleurs, disons-le du bout des lèvres, mais on est un peu triste de constater que d'après les derniers travaux sur les régionales ou les dernières élections, on constate une poussée vers l'extrême droite de ce qu'on appelle les messalisants, c'est-à-dire du monde catholique traditionnel qui va à l'église, qui depuis toujours, au contraire, était hostile au Front National. C'est eux qui étaient pratiquement le plus hostile au Front National. Et là, il y a visiblement un glissement vers le Front National. Donc il se passe quelque chose.
Pourquoi alors, à votre avis, comment distinguer, puisque vous le faites depuis 3 décennies, Pierre Birnbaum, comment distinguer dans ce maelstrom d'événements successifs la sédimentation d'une résurgence à la fois d'un extrémisme qui a existé depuis l'aube de la Révolution, d'une intolérance, d'un repli identitaire, comme disent certains, tout étranger, quel qu'il soit, tout d'un coup fait peur, refait peur.
Alors, il est difficile de vous apporter une réponse claire à cette droitisation subite ou récente.
Extrême droitisation.
Extrême droitisation, qui se manifeste, vous le savez bien, par la victoire, enfin par des scores importants de l'extrême droite, dont on a des exemples dans la plupart des pays européens, depuis la Finlande jusqu'au Danemark, la Norvège. Donc il y a une crainte, mais je veux dire que des banalités ici, une crainte de l'avenir, la crise économique, la peur de l'étranger, les retombées de ce qui se passe au Moyen-Orient, du conflit israélo-palestinien, de l'affaire en Syrie, le défaitisme propre à la société française, sont des banalités. Ce que je voudrais plutôt dire, c'est que cet épisode rappelle des états propres à la société française. C'est-à-dire, je reviens par exemple sur les années 30 et sur le personnage de Léon Blum auquel je me suis intéressé récemment. On a les mêmes cris. On a le même refus de quelqu'un qui symbolise l'État puisqu'il est président de la République. Il est président du Conseil, vous voyez. Imaginez le choc. On a pour la première fois dans l'histoire moderne quelqu'un qui est à la fois juif et président du Conseil, c'est-à-dire président de la République à l'époque. Le président du Conseil est celui qui tient les rênes du pouvoir. Et on a ce même choc. Vous voyez, c'est cette espèce de choc que ressentent une partie des Français qui fait que le vieux slogan « la France aux Français », c'est la France aux Français autochtones, comme on dit aujourd'hui, les Français de souche, comme on dit aujourd'hui. Alors le pauvre Léon Blum, il est Français de souche, puisqu'il est Français de France depuis 3 ou 4 siècles. Mais, pour certains, comme il est juif, il n'est toujours pas français de souche. Et donc, quelqu'un qui est normalien, qui est au Conseil d'État, qui symbolise la méritocratie républicaine, qui symbolise l'État à la française, l'universalisme, le rationalisme et le socialisme, est néanmoins perçu comme étant autre. Nous sommes dans les années 30, et des années 30, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette perception de ceux qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas chrétiens, et qui pourtant sont citoyens corps et âme, dans leur culture, dans leur mode d'action, dans leur dévouement à la République, dans leur dévotion à l'État, dans leur culture républicaine, dans leur parcours méritocratique, à travers le nec plus ultra de l'école normale supérieure, de la rue d'Ulm, et jusqu'au Conseil d'État, qui est le nec plus ultra de la haute fonction publique et du droit administratif, n'est toujours pas perçu comme étant français. Donc on a là une sorte de permanence qui est la suite de ce refus par la contre-révolution de l'émancipation en 91 et de la montée lente mais réelle à travers la méritocratie des juifs dans l'État, de l'alliance entre les juifs et l'État, des noces, comme disait une fois Pierre Nora, ou des fiançailles, je ne sais plus quelle expression il utilisait, entre les juifs et la République. Vous voyez. Et ce refus, il est toujours présent. Enfin, il est évidemment moins marqué, mais dans les sondages d'aujourd'hui, on voit tout de même toujours, c'est très faible, mais on voit toujours quelque chose comme autour de 30% des personnes qui disent qu'il n'est pas question qu'un juif puisse être président de la République. C'est très peu, mais c'est tout de même 30% ou 60%.
C'est beaucoup.
Et 65% dans le dernier sondage Sofres, publié par la Commission droits de l'homme et des libertés, 60-65% établissent toujours un lien privilégié entre les juifs et l'argent. Donc, les préjugés restent là, même si, évidemment, l'antisémitisme dans l'opinion publique s'est largement atténué, a largement disparu. Certains préjugés sont très puissants encore, et puis, bien évidemment, les actes antisémites relevés par cette même commission, vous le savez, ont plus que doublé en 2-3 ans, et par acte antisémite, on entend des actes violents, enfin des agressions physiques, des insultes. La commission et le ministère de l'Intérieur lui-même, donc ce sont des statistiques qui sont fournies par les autorités de l'État lui-même. Dans son rapport, le ministère de l'Intérieur souligne cette croissance des incidents graves. Il y a à la fois un exceptionnalisme unique au monde, qui permet précisément le surgissement de personnages comme Léon Blum, qui symbolise le rayonnement de la République française de par le monde. Et puis en même temps, une réaction très vive qui, évidemment, s'est atténuée par rapport aux années noires ou par rapport aux années 30, mais dont on peut trouver ici ou là, de jours de colère à des événements récents, des traces, et qui, malheureusement, trouve un certain écho chez les fidèles de Dieudonné, à travers ces histoires de complots, de retour des protocoles des sages de Sion, qu'un Drumont avait déjà célébré.
Marine Le Pen prend bien garde de ne jamais prononcer de mots antisémites, contrairement à son père qui réitère à chaque fois qu'il le peut, et qui d'ailleurs en ce moment même est toujours condamné pour des propos antisémites. Pensez-vous que ça soit une stratégie ou la réalité d'une position intime?
Il est difficile de vous répondre, c'est une question grave, très sérieuse. Enfin, est-ce une posture démocratique qui permet de se rallier une droite plus modérée? Est-ce une stratégie délibérée d'entrée dans le système politique et d'acceptation des règles du jeu démocratique? En tout cas, elle mène très bien sa barque et malheureusement, elle trouve au fond une oreille attentive auprès d'un électorat croissant, ce qui ne peut qu'inquiéter l'observateur et le citoyen que je suis, évidemment.
Nous allons écouter la voix de Raymond Aron, c'était au micro de Jacques Chancel, c'était le 1er octobre 1976, il va se dire blessé par cette fameuse conférence de presse du général de Gaulle, pendant laquelle ce dernier a désigné donc le peuple juif, je cite, comme un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. C'était à propos de la guerre des Six Jours en 1967. On écoute la réaction de Raymond Aron.
Il est bien entendu que la conférence de presse du général de Gaulle, le peuple juif sûr de soi et dominateur, peuple d'élite sûr de soi et dominateur, m'a blessé. Mais d'une certaine manière, le général de Gaulle, quelques semaines après, a reconnu plus ou moins qu'il avait eu tort. Et je ne suis pas le seul à avoir été choqué et blessé par une formule de cet ordre. Vous vous souvenez du fameux dessin de Tim dans Le Monde où l'on voyait le concentrationnaire dans sa tenue rayée et au-dessous, sûr de soi et dominateur. Il y avait quelque chose de profondément choquant à l'époque, si peu de temps après l'assassinat industriel de millions de juifs, à parler des juifs comme d'un peuple sûr de soi et dominateur. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'ancien commissaire aux affaires juives a illuminé. Il a retrouvé des termes qui avaient été utilisés pendant la guerre et dont les Français non-juifs rougissent aujourd'hui. Alors pourquoi me reprocher d'avoir eu le courage, en tant que juif, de m'élever contre une conférence de presse?
On vous l'a reproché?
Oh, plutôt, mais peu importe.
On l'a fait remarquer.
On l'a fait remarquer. Bon, mais je crois avoir dit au début de ce commentaire que s'il y avait eu des non-juifs pour l'écrire, je ne l'aurais pas écrit, mais j'ai attendu. J'ai attendu que des non-juifs protestent contre cette conférence de presse. Il ne s'en est pas trouvé. Alors il a fallu que je me dévoue. J'ai le goût des causes difficiles. Non ? Vous ne croyez pas que je peux plaider ?
Nous venons d'entendre donc Raymond Aron, qui manifestement avait été très blessé par les réactions engendrées par son jugement sur les mots prononcés par le général de Gaulle. Comment les comprenez-vous aujourd'hui avec la distance du temps ? Est-ce qu'on s'est adressé non pas à Raymond Aron l'intellectuel, mais à Raymond Aron désigné comme juif ? Que pensez-vous aussi de ces propos du général de Gaulle ? Était-il prononcé sous le coup d'une émotion particulière ou correspondait-il finalement à quelque chose de très calculé par rapport à son électorat, selon vous, Pierre Birnbaum ?
Alors c'est très bouleversant d'entendre la voix de Raymond Aron et de l'entendre prononcer à nouveau ces mots. J'ai été son élève, très proche de lui, je fais ma première thèse à sa direction et je lui dois énormément, disons, dans la carrière que j'ai pu essayer de mener. Il m'a vraiment ouvert les portes de l'université. Je pense que ce qu'il faut retenir de sa réaction, qui est celle aussi d'autres juifs d'État, comme je les appelle, c'est-à-dire que Raymond Aron personnifie à son tour la méritocratie républicaine, le passage par les grandes écoles et la voie royale vers l'université, comme René Cassin qui l'a rejoint à Londres, tout comme de Gaulle, tout comme Aron. Aron, qui proteste contre de Gaulle, a rejoint de Gaulle tout de suite en 40, exactement comme René Cassin, qui sera vice-président du Conseil d'État et qui rejoint de Gaulle tout de suite en 40. Or, René Cassin comme Aron prennent la parole pour protester contre cette phrase du général de Gaulle. Ils le font de manière incroyablement courageuse, puisqu'ils le font... C'est comme un coming out, ils le font comme juifs. Donc c'est quelque chose que Aron ne faisait pas de manière fréquente. Et je pense que ce qui les a touchés, ce qui est blessant dans cette phrase, ce qui reste blessant dans cette phrase, c'est-à-dire que le général de Gaulle condamne l'action d'Israël, c'est son droit. Encore qu'Israël était l'agressé et se défendait, mais ça c'est autre chose. Mais il a le droit d'interpréter les relations internationales comme il l'entend, mais c'est la phrase, c'est la dénomination de peuple juif. C'est-à-dire que ça n'est pas Israël qu'il condamne, c'est le retour à nouveau cette phraséologie d'un peuple juif qui, du coup, inclut tous ceux qui en font partie ou s'y rattachent.
Ça n'était pas encore une citoyenneté à part entière.
Voilà, donc c'est une façon tout de même d'exclure un certain nombre de citoyens. Et en effet, c'est comme ça qu'Aron l'a ressenti, ou Cassin, qui sont le nec plus ultra de la méritocratie républicaine, du gaullisme, eux qui ont rejoint, qui se sont battus pour De Gaulle dès 40, qui quittent la France dès 40, vous voyez. Il est vrai qu'il y avait plusieurs juifs autour de Gaulle en 1940 et qu'il y avait aussi malheureusement quelques traces d'antisémitisme dans l'environnement de Gaulle en 1940.
Et vous, Pierre Birnbaum, de la même manière que Raymond Aron s'est engagé en tant qu'intellectuel pour contester les propos du général de Gaulle, vous avez publié ce bouquin sur cet épisode sinistre de Jours de colère. Pensez-vous que le rôle des intellectuels, c'est de porter haut et fort un discours de vérité par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même, et qui est très complexe ? où beaucoup de choses s'agrègent. D'ailleurs, vous le montrez dans vos travaux historiques.
C'est-à-dire, ce qui revient, je pense, aux chercheurs, parce que l'intellectuel est un bien grand mot, aux universitaires, aux chercheurs qui essaient d'appréhender le réel comme ils le peuvent et d'essayer de l'expliquer. Et c'est en effet de donner des analyses les plus précises dont ils ne sont pas forcément capables sur le champ de ce qui se passe dans la société française, dans ses profondeurs, et ce qui est assez indéchiffrable parce que nous vivons un moment particulièrement énigmatique de basculement vers un inconnu assez effrayant, assez inquiétant, assez effrayant. Et cette angoisse même suscite d'autres types d'inquiétudes, comme une sorte de cercle vicieux. Je pense que le plus triste dans cette affaire, et là j'en reviens à mes dadas personnels, c'est le déclin de l'État. C'est la manière... Je vais vous amuser. C'est au fond la phrase de Macron sur les autobus. Oui. Ça va vous surprendre.
Quelle phrase ?
L'idée qu'on remplace la SNCF par des autobus, oui, privés. On fait reculer l'État, oui. C'est-à-dire, on attribue les fonctions régaliennes.
Pour que ça soit soi-disant moins cher pour tous les citoyens.
Oui, mais
on brade l'État.
On brade l'État, oui. On brade l'État au niveau de la vie quotidienne, les postes. Et il me semble que c'est le recul de l'État et le recul des personnages qui symbolisent le rayonnement universaliste de l'État. Il me semble que c'est à la fois cette politique de rejet, de déclin de l'État et cette espèce d'absence de stature des hommes d'État, des hommes qui symbolisent l'État, qui sont à la tête de l'État, qui en ont la responsabilité de la tête de l'État, qui favorisent cette croissance de l'inquiétude et cette déliquescence de la citoyenneté et donc cette remise en question de l'espace public et ce questionnement sur le devenir de cette société.
Nous allons écouter les propos de Manuel Valls. C'était lors d'un discours après les attentats de janvier 2015. C'était le 20 janvier 2015, très exactement, sur France Inter.
Oui, ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays. Les tensions qui couvent depuis trop longtemps. La relégation périurbaine, les ghettos. Ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau ou bien parce que l'on est une femme.
Et vous a convaincu ce jour-là Manuel Valls, Pierre Birnbaum ?
Le vocabulaire est... doit être regardé de plus près parce que, par exemple, il y a une discussion sur le semi-urbain. C'est une thèse avancée par certains, elle est niée par d'autres. Le terme d'apartheid, faut-il vraiment l'utiliser ? Il les renvoie à une situation historique qui ne correspond pas là. C'est-à-dire que le propre du sociologue ou de regarder de plus près les termes utilisés. Je pense qu'il faut essayer que la parole publique doit être le plus proche possible de la description adéquate de ce qui se passe dans la société française. Pour le reste, on dispose de travaux extrêmement inquiétants, par exemple sur effectivement les discriminations auxquelles fait allusion le Premier ministre à partir du nom. Il y a un travail fait par l'école d'économie de Paris qui est paru il y a quelques mois et qui est accablant dans ses résultats. C'est un travail qui porte sur des milliers et des milliers et des milliers de noms et de prénoms, en masquant les noms, en faisant jouer les noms, en prenant des prénoms bien français, des prénoms plus musulmans ou des prénoms juifs. Et on voit que les personnes qui ont des prénoms de type un peu musulman sont 100% plus discriminées.
Mais pourquoi, alors, à votre avis, pays qui se veut une république, qui a fondé sa tradition sur les droits de l'homme de la Révolution, pourquoi en 2016 continue-t-il à discriminer autant en accentuant justement la possibilité d'un basculement vers des extrêmes ?
Écoutez, c'est à la fois le propre de la société française. Dans son histoire, il y a la question de la guerre d'Algérie qui n'est toujours pas vraiment intégrée aux mémoires. elle est toujours très vivante chez des millions de nos concitoyens qui ont fait parfois eux-mêmes, dans l'armée, cette guerre d'Algérie. Elle est dans la mémoire de ceux qui l'ont subie, ou de leurs enfants, qui sont des citoyens français. Et puis, donc, d'un côté, il y a les guerres d'Algérie, dont la mémoire et la place dans l'histoire française n'est pas encore, je pense, n'a pas encore la place qui est la sienne. Et puis, il y a effectivement tout ce qui se passe au niveau, dans le Proche-Orient, en Afrique du Nord, depuis quelques mois ou quelques années, qui renforce les préjugés, qui renforce les inquiétudes. À nouveau, j'aurais tendance à dire que c'est le recul de l'État, c'est le recul de la méritocratie, le recul de l'école qui est le plus inquiétant. Parce que tant que la méritocratie républicaine, tant que les instits sont vraiment des instits, il y a une sorte de transmission, de socialisation politique qui se réalise. Et le recul de la légitimité du parcours scolaire, de la légitimité des enseignants, du métier d'enseignant, dont l'exercice est extrêmement difficile, évidemment, de nos jours. Mais en tout cas, cette fonction est moins réalisée qu'auparavant. Elle est l'intégration républicaine qui passait par ces grands mécanismes à travers l'école et puis le service militaire, mais surtout l'école est remise en cause. Et vous savez bien qu'il y a une sorte de montée de l'école privée au détriment de l'école publique, une montée des écoles religieuses au détriment de l'école publique. Il y a une sorte de parcellisation des socialisations qui met à mal l'unanimisme de l'espace public et donc la civilité des citoyens.
Faudrait-il pour autant assouplir les règles de principe d'application de la laïcité en France ?
Je pense que les deux sont compatibles. Je pense qu'on peut avoir une école publique, au contraire, et qu'une école publique, telle qu'elle fonctionnait sous la Troisième République et même sous la Quatrième, était davantage prête aux accommodements avec les valeurs ou les rituels des uns ou des autres. J'avais écrit un petit livre il y a 2 ou 3 ans qui s'intitulait « La République et le cochon ». Et je montrais que cette question de la nourriture qui fait tellement problème de nos jours dans les écoles, elle était résolue par des accommodements au niveau de la vie quotidienne dans les écoles de la République, sans drame, et que les uns et les autres s'adaptaient à la fois au maintien d'une école publique républicaine et laïque, et en même temps aux valeurs des uns et des autres, en présentant des dérogations, des accommodements à la marge, sans qu'ils soient proclamés. C'est-à-dire qu'entre l'idéologie, entre les grands discours et la mise en œuvre de ces discours républicains, il y avait les instituteurs acceptaient de parler en patois au Berrichon ou au Basque et acceptaient au fond la présence de la diversité.
Ben merci beaucoup Pierre Birnbaum, merci pour tout ce que vous nous apportez et les éclairages que vous nous donnez grâce à vos différents livres. J'en rappelle quelques-uns, les plus récents, Léon Blum, Un portrait, La République et le cochon, Sur un nouveau moment antisémite, Jour de colère, Les désarrois d'un fou de l'État. Merci infiniment et merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Philippe Bredin, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée.